Passion Montagne, c'est dimanche, très heureux de vous retrouver, bien évidemment, aux côtés de Jean-Michel Asselin, que je salue. Bonjour Jean-Michel.
Eh bien, je vous salue de même, cher Christophe Chardon, et on est ravis d'accueillir tous nos auditeurs et auditrices des montagnes.
Des pays de Savoie et de l'Isère, nos invités, alors il y en a beaucoup aujourd'hui, dans un instant, Micheline Rambeau. Écoutez bien, elle a participé à la première expédition exclusivement féminine de 1959 au Népal. Cette expé avait pour but l'ascension du Shoyu. Un film est déjà sorti il y a quelques temps de cela. Le bouquin arrive dans quelques jours. C'est Voyage sans retour aux éditions du Mont Blanc, édition Catherine Destivelle. Elle est avec nous d'ici 3 minutes. Terre de montagne également, le rendez-vous aux côtés de Montagne Magazine. Aujourd'hui, Sylvain Bazin nous donnera quelques clés pour progresser en trail. Jean-Michel également. Et les bons conseils, vous nous les donnerez une nouvelle fois. Et aujourd'hui, très très bon conseil.
Oui.
Éviter de porter un sac trop lourd.
Voilà, il faut savoir ce qu'on met dedans et ouais. Si possible du léger.
Quand on fait une petite rando de 500 mètres
de dénivelé, il n'y a pas besoin
de mettre
porter,
de 4 polaires.
Voilà, et de mettre 17 litres de flotte. Ça ne sert à rien.
Le sac léger, c'est toujours appréciable en montagne. Enfin, coup de fil de plus à Jean-Jacques Bouchage. C'est le président de Époque Ski. Que se passe-t-il dans le Beaufortin, du côté de Beaufort-sur-Doron? On est en train de monter, on a la volonté de monter un beau musée sur l'histoire des sports d'hiver, que ce soit les remontées mécaniques, que ce soit les habits, que ce soit tout ce qui touche au sport d'hiver. Il viendra nous présenter justement tout ce travail, ce sera vers la fin de l'émission. Coup de fil donc à Jean-Jacques Bouchage. Dans un instant, je vous le disais, on va remonter les décennies avec Micheline Rambeau. On va partir du côté du Népal au Shoyu en 1959, c'est après Clara Luciani.
Passion Montagne, Christophe Chardon, Jean-Michel Asselin.
France Bleu. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais. Dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton.
Le reste, c'était Clara Luciani. Allez, c'est l'heure de notre invitée principale. Et aujourd'hui, on passe un coup de fil à Micheline Rambeau. Elle a participé à la première expédition exclusivement féminine au Népal. Écoutez bien, en 1959, qui avait pour but l'ascension du Chao-Oyu.
On est ravis de vous accueillir dans notre émission.
D'accord, c'est gentil.
Micheline, ce que je voudrais vous poser d'abord comme question, c'est que vous aviez 29 ans. Quand vous avez été embauché par la fameuse alpiniste Claude Cogan pour faire partie de cette expédition qui était construite avec des femmes, une douzaine de femmes, je crois.
Alors, nous étions 9 européennes alpinistes, plus 3 népalaises qui étaient les filles et la nièce de Tenzing Norgay. J'avais l'habitude de vivre avec de l'oxygène raréfié, etc. Et puis de marcher dans les montagnes.
Comment Claude Cogan vous a contacté pour faire ce film et être finalement la rédactrice de cette histoire ?
La rédactrice, ça, mon Dieu, Claude, il y a 60 ans, 62 ans, qu'elle risque pas de le savoir. Mais le livre, je l'ai sorti simplement parce que je me suis mise un jour à écrire, puis je l'aurais envoyé à quelques-uns. J'ai envoyé ces textes à ma tienne pour vous tenir compagnie. Je vous raconte des petites histoires. C'est quand j'ai eu des réactions des gens, j'ai dit, moi je voudrais bien que ça aille dans le monde alpin.
Oui. Alors justement, Micheline, je vous interromps.
Oui,
racontez-nous cette incroyable aventure, parce que vous êtes parti en 59, le Népal est ouvert seulement depuis 9 ans. Vous êtes avec toutes ces femmes, il y a des Anglaises, des Belges, donc des Népalaises. Et vous allez pendant des jours et des jours avancer jusqu'au Tibet, où se trouve le fameux Chao-Oyu et ses 8201 mètres. Comment ça se passait ? Est-ce que c'était sympathique de marcher comme ça dans un pays encore tout neuf ?
Non mais attends, il faut ouvrir les yeux. Je suis d'un esprit curieux. Donc, c'était une chose extraordinaire pour moi que de partir dans un pays où je ne serais jamais allé si je n'avais pas été embarqué dans cette expédition. Que je précise aussi que mon film est un film fait par une femme pour une équipe de femmes dans une expédition de femmes et qui a regardé vivre tout au long de son chemin les femmes du Népal.
Dites-moi, Micheline, les Tibétains en 1959 qui voyaient arriver toutes ces femmes, quelles étaient leurs réactions ?
Mais il n'y a pas de problème avec les Sherpas. Nous avions une cinquantaine de porteurs, ces gens-là. Ils viennent travailler pendant 3 semaines, ça va les faire vivre, eux et leur famille, pendant 6 mois. Ils travaillent, ils portent leur charge, ils marchent, le soir ils s'arrêtent, ils vivent leur vie, nous vivons la nôtre, et puis voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire.
Micheline Rambeau donc est avec nous dans Passion Montagne pour cette première expédition exclusivement féminine en 1959 au Népal. On va revenir dans un instant sur l'ascension avec vous, Jean-Michel Asselin. Et dans Passion Montagne, Micheline, vous restez avec nous.
Passion Montagne.
France Bleu.
Allez, Sebastas una canzone. On chante avec les mains aujourd'hui dans Passion Montagne. Et voici Eros Ramazzotti.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri
si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già. Sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Di un solo colore più vivo che mai. Dedicata a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicata a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicata a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento. Quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto. Cercato e voluto che fosse così.
Eros Ramazzotti dans Passion Montagne. Micheline Rambaud, on poursuit notre interview. On revient en 1959 au Népal pour l'ascension du Shoyu avec cette expédition exclusivement féminine.
Menée par Claude Kogan.
Oui. Claude Kogan et un livre qui va arriver aux éditions du Mont Blanc. Bonjour Catherine Destivel, qui s'appelle Voyage sans retour. Allez, on commence à prendre de l'altitude, Jean-Michel.
Oui, bah on va tout de suite se trouver au pied du Shoyu. Alors pour une jeune femme comme vous, c'était la première fois que vous atteigniez une telle altitude au camp de base, j'imagine.
Ah ben bah oui, tout à fait, parce que vous savez, j'étais de Grenoble. Alors moi, j'étais la moins technicienne, si vous voulez, par rapport à Loulou, par rapport à Claude Kogan. Moi, j'étais là en tant que cinéaste. Donc, il avait bien été établi, quand j'avais rencontré Claude, que la cinéaste n'était pas en tête, que j'avais dit, attention, moi, je ne suis pas une grande alpiniste. Claude m'a dit, les renseignements que j'ai, vous avez le caractère, le tonus pour marcher avec une expédition. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà.
Alors, il n'y a pas de problème, mais il y a eu quand même cette drame terrible, puisqu'on le sait, votre film et votre livre s'appellent Voyage sans retour, tout simplement parce que Claude Kogan, Claudine van der Straten et le Sherpa Ang Norbu ont et tous les trois péri dans une avalanche le 2 octobre 59. Vous vous rappelez de cette journée où vous attendiez Claude dans la tempête?
Oui, bien sûr. de ce fameux 2 octobre, je me souviens, parce que il s'est mis à neiger, et alors un temps lourd, de la neige lourde qui s'accumule, il neige pendant 50 heures d'affilée.
Wow.
Non, 50 heures de neige lourde. Vous imaginez un petit peu ce que ça donne, rien qu'au camp de base. On avait déjà 1,50 m de neige fraîche.
Et vous entendiez, j'imagine, les avalanches qui partaient un peu...
Alors, on a commencé à entendre les avalanches à partir du 2 au matin à 9 heures. Nous étions dans un brouillard épais à 9 heures du matin et nous, on s'est dit, elles sont au camp 2 ou au camp 3, on ne savait pas. Attention, il n'y avait aucun téléphone portable à l'époque, ça n'existait pas.
Bien sûr.
Donc, pour avoir des nouvelles... C'est un porteur qui descend un billet.
Oui.
Bon, donc nous savions à peu près où elles étaient, mais on ne savait pas exactement ce qu'elles allaient faire.
Quand vous avez appris leur disparition, quand vous avez compris qu'elles ne redescendraient pas, je sais que vous avez fait des petits monuments et que vous êtes servi, je crois, du rouge à ongles, de vernis à ongles pour marquer leur nom.
Oui. Alors, tout simplement parce que les Sherpas ont construit un shorten.
Oui.
Nous, on ne pouvait pas construire un aussi gros machin. Nous, on a simplement fait un cairn avec un certain nombre de dalles. Et sur ces dalles, on s'était dit, on va mettre quelque chose qui... Parce qu'on ne pouvait pas graver les pierres...
Bien sûr.
À la pointe. Bon. Donc, on a pris une tôle... Et comme on n'avait pas de peinture, eh ben, les filles, elles ont trouvé dans leur trousse de toilette, elles ont trouvé du vernis à ongles, et on a écrit notre pierre tombale avec du vernis à ongles.
Oui.
C'était une époque où on allait avec du vernis à ongles en montagne, c'est ça.
On était des
toujours
femmes.
Bien apprêté.
On était des femmes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a fait très sourire dans votre livre,
ouais.
C'est quand vous dites que vous n'osez plus photographier vos amies en sous-vêtements tellement elles ont maigri. Et vous dites,
bien sûr.
Nous avions des corps de Haridel.
Absolument. On avait emporté de chez Enro des sous-vêtements en lainage tricoté. On les avait passé ça avant de partir. Oh, qu'est-ce qu'on était bien. Pour un peu, on se serait regardé dans la glace. On a marché 21 jours pour monter. On est resté 3 ou 4 semaines au camp de base.
Oui, vous aviez perdu quelques kilos.
On avait perdu 6 à 10 kilos chacune.
Eh oui, oui.
Ouais, Micheline Rambaud, en tout cas.
Merci Micheline.
Merci à vous. Hein, et on attend le livre
avec impatience. Ouais.
Voyage sans retour aux éditions du Mont Blanc, Catherine Destivelle. Et rappelons pour ceux qui nous rejoignent que Micheline Rambaud a donc participé à cette première expédition exclusivement féminine. Quand même, en 1959, au Népal, le but de l'ascension du Shou Yu, avec un film déjà sorti.
Micheline, je sais que ça ne se fait pas, mais pouvez-vous nous dire votre âge ?
Oh, je peux le dire, hein. Je suis dans ma 93e année.
Merci Micheline, on aimerait bien être comme vous à cet âge-là.
Et donc grenobloise, photographe, montagnarde aussi, parce que forcément au Népal on devient montagnarde. Merci à vous Micheline Rambaud.
Merci à vous.
Bonne journée.
Micheline. Bonne journée à vous.
À très bientôt. Et dans un instant, Terre de Montagne, le rendez-vous en partenariat avec Montagne Magazine. On va retrouver Sylvain Bazin. Sylvain nous donnera quelques bonnes clés. Tiens, ça va nous faire du bien pour progresser en trail. C'est dans un instant.
Passion Montagne, Christophe Chardon, Jean-Michel Asselin.
France Bleu.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così,
fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare. Basta seggiare, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli, oh. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi. E un'altra poi, finché diventa di un solo colore più vivo che. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro, oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.
Eros Ramazzotti dans Passion Montagne. Terre de Montagne, c'est le rendez-vous avec nos amis de Montagne Magazine. Et aujourd'hui, ce dimanche, aux côtés de Sylvain Bazin de Wider Mag, je vous propose de parler de trail. Comment débuter aujourd'hui, Sylvain ?
Oui, tout à fait. Évidemment, c'est une activité à la fois très très simple, mais qu'il faut quand même aborder avec prudence et progressivité. Bien sûr, si l'on n'a jamais couru, il faut y aller très très progressivement. Commencer d'abord sur des terrains faciles, hein, un parc, un chemin bien entretenu, un dénivelé très très abordable. On va courir sur des terrains naturels, donc des terrains irréguliers. Il faudra adapter sa technique. Et puis également, y aller très progressivement sur l'aspect dénivelé, puisque à la fois en montée, on va avoir un travail musculaire et également pulmonaire et cardiaque plus important, hein, et puis aussi à la descente, puisque la descente occasionne quand même des chocs, des traumatismes qui seront quand même beaucoup plus importants. Et là, il faut vraiment y aller prudemment, ne pas enchaîner les séances tout de suite avec des grosses descentes. De même, à la montée, accepter aussi de marcher. Et puisque souvent, selon le degré de pente et la difficulté technique, on sera plus efficace en marchant vite qu'en voulant absolument courir.
Si je comprends bien, on commence sur de courts espaces-temps, on fractionne éventuellement, et pour le dénivelé, on adopte la progression.
Tout dépendra effectivement du niveau sportif au préalable, hein. C'est vrai que si on a déjà une pratique sportive, on peut tout à fait envisager 2 à 3 fois par semaine. On peut espérer vite progresser et prendre davantage de plaisir dans la pratique.
Allez, dernier aspect, Sylvain Bazin, et pas des moindres. quel équipement choisir pour le trail?
Oui, alors c'est vrai que au début, on peut se contenter d'acheter une paire de chaussures spécifiques qui sera adaptée à la pratique du trail avec une bonne accroche et une protection du pied suffisante. Et puis ensuite, on pourra aussi investir dans un sac pour notamment conserver une bonne hydratation tout au long de l'effort plus facilement. Et puis ensuite, on pourra avoir des bâtons, surtout si l'on court en milieu montagnard. Mais c'est vrai que c'est un sport qui nécessite peu d'équipement au départ.
Nous voilà prêts à aller courir dans nos belles montagnes. Je remercie Sylvain Bazin de Wider Mike pour ce rendez-vous Terre de Montagne.
Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
J'adore la bonne humeur que vous infusez.
Sur France Bleu, c'est génial, on découvre plein de nouveaux chanteurs, c'est top.
Passion Montagne, la suite arrive dans un instant. Nous écouterons local de l'étape, j'ai envie de dire, centre-ville Calogero. Et puis Jean-Michel, vous nous donnerez un bon conseil montagne aujourd'hui. Alors écoutez bien, parce que ça va nous rendre quand même pas mal de services. On va éviter d'avoir un sac trop lourd à crapahuter jusqu'au sommet.
Ça ne sert à rien, vous verrez pourquoi.
Tout dépend de ce qu'on fait, mais vous allez bien tout nous préciser dans un instant. Et puis on passera un coup de fil également à Jean-Jacques Bouchage, président de Époque Ski. C'est une association du côté du Beaufortin. On salue tous les amis qui habitent dans le Beaufortin, c'est magnifique. Beaufort-sur-Doron, on est en train de créer, c'est vrai, un musée du ski. Il va tout nous expliquer, ce sera par la suite, en écoutant bien sûr Passion Montagne. C'est dimanche, on est ensemble entre 11h et midi. Et franchement, vous voulez savoir? Eh bien, on est bien à vos côtés. Tout de suite, c'est Calogero.
Passion Montagne, France Bleu.
Tout ce temps qui
Géraud et Centreville sur France Bleu dans Passion Montagne. Si vous aimez Sting, reconnaissable parmi mille, restez là parce qu'il arrive avec sa nouvelle chanson If It's Love. Dans un instant, vous allez voir, c'est un petit bijou, c'est une petite merveille. Un petit bijou aussi, ce sont les bons conseils de Jean-Michel Asselin. Tous les dimanches, on les écoute et on les applique. Hein. Bah, je connais des gens, ils me disent je n'attends que ce moment-là dans Passion Montagne.
J'espère.
Alors, aujourd'hui, on évite un sac... Oui. À dos trop lourd, parce que déjà ça casse le dos et
ça nous fera économiser de l'énergie. Vous savez, le sac, il ne faut pas le faire au dernier moment. Parce que si vous le faites au dernier moment, un, vous allez oublier des choses, ou deux, vous allez trop en mettre. Donc, il faut à chaque fois le faire un petit peu avant de partir et essayer de voir vraiment l'utilité et le poids de chaque objet en se disant, est-ce que c'est indispensable?
En fonction de la rando qu'on va faire.
En fonction, voilà. Alors moi, je vais vous parler de rando d'une journée. Vous voyez, vous partez le matin, ok, vous allez peut-être pique-niquer à midi au sommet, mais redescendre.
On ne monte pas à 4807,80.
On est le randonneur du dimanche ou du samedi. Voilà. Et donc, votre sac à dos, il ne faut pas oublier que ça peut devenir votre pire ennemi. Parce que s'il est trop lourd, bah, c'est une horreur. Alors les gens, ils disent couramment, non mais moi, 10-12 kilos, ça va. Ouais. Et ben moi, je veux bien les mettre sur la balance, les 12 kilos, puis les voir après marcher. Non, c'est beaucoup trop lourd. Donc, encore une fois, les affaires indispensables, et c'est tout. Et puis après, il y a quelque chose qui est très important, c'est de bien régler son sac sur les épaules. Parce qu'un sac mal réglé, eh ben vous perdez de l'équilibre, vous êtes pas stable, vous faites des douleurs dans le haut et le bas du corps. Donc, il faut vraiment un sac équilibré.
Oui, qui tient au corps.
Qui tient bien.
Qui est près au corps.
Voilà, qui est près du corps, etc. Sans oublier un sac qui respire. Parce que si vous avez le dos qui n'est pas aéré, c'est une horreur également.
Pour les
voilà.
Ceux et celles
donc,
qui transpirent.
Donc, un sac à dos, franchement, ça nécessite quand même un petit peu de réflexion quand on l'achète et de bien se renseigner. Voilà. Une petite chose. Quand vous vous arrêtez, vous faites une pause. Et ben votre sac, vous le posez aussi également. C'est pas la peine de se tenir avec le sac sur le dos, ça ne sert à rien. Posez-le, vous verrez.
Vous gagnerez
ça repose.
Quelques kilos et c'est tout ce qui n'ira pas dans les jambes.
Exactement.
Merci pour ce bon conseil, Jean-Michel Asselin. Merci. Dans un instant, un coup de fil de plus à Jean-Jacques Bouchage, président de Époque Ski. Alors on va partir dans le Beaufort, hein, parce qu'à Beaufort-sur-Doron, déjà il y a du bon fromage. Et d'autre part, on essaye de créer un musée du ski, un musée des sports d'hiver. Et tous les détails, on vous les donne. Après Sting, je vous l'avais promis, le voici. Écoutez, c'est sa nouvelle chanson, reconnaissable dès les premières secondes. Sting.
Retrouvez Passion Montagne sur francebleu.fr.
This morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason, and of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps already laid, and I'm afraid you're
C'était Sting sur France Bleu dans Passion Montagne. Après la pause, je reçois Jean-Jacques Bouchage à ses côtés. Nous parlerons de l'espace muséal des pratiques du ski et de la glisse en Beaufortin, du côté de Beaufort-sur-Don. Passion Montagne, le coup de fil de plus, nous accueillons Jean-Jacques Bouchage. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Eh bien, bonjour l'équipe là, du magazine Montagne.
Vous êtes président de Époque Ski, c'est une association. Alors on part dans le Beaufortin avec vous à Beaufort-sur-Doron, magnifique. Et en fait vous êtes en pleine activité pour créer un espace dédié, un musée au ski, à la neige en tout cas, et à la pratique sportive du côté du Beaufortin. Vous êtes au cœur de cette préparation actuellement, Jean-Jacques Bouchage.
On est au cœur parce que un historique comme ça, pour le recenser, le remettre en archive, le mettre en scénarii, ça va nous prendre 2 ans et demi minimum, sachant que depuis 2012 on collecte, hein. Et donc la mairie de Beaufort nous prête actuellement une salle pour déposer, trier, nettoyer, archiver et puis commencer un semblant d'histoire. Bien sûr, il faudra qu'on ajoute du professionnalisme à tout ça.
Qu'est-ce que vous récoltez essentiellement pour l'instant ? Du matériel, des skis, des fixations ? Qu'est-ce que vous récoltez ?
La chose un peu plus exceptionnelle, c'est que on parle des disciplines du ski, de la glisse. Donc ça comprend aussi bien le ski de montagne, le ski de fond, le surf, enfin, on va jusqu'à nos époques. On veut allier aussi au matériel, bien sûr, les chaussures et bien sûr aussi les vêtements. On va aussi beaucoup parler des créations des ski clubs des 4 communes du Beaufortin.
Ouais, Jean-Jacques Bouchage, sur quelle commune les premiers téléskis ont vu le jour dans le Beaufortin ?
Ça s'est fait sur Arèche, c'est 1947 par un privé, Gaspard Blanc. Et sur Autus, il y a eu presque à la même époque des semblants d'aménagement sur la commune d'Autus, puisque les saisies n'existaient pas. Les premiers téléskis, oui, ont été mis par c'est paradoxal, un Beaufortin qui a posé ça au lieu du dépaiement sous le col des saisies.
Comment est-ce qu'on peut vous aider, Jean-Jacques Bouchage, dites-nous.
Alors moi, l'aide, c'est déjà bien de faire connaître qu'on a une association en loi 1901. Tous ceux qui veulent participer, nous donner des mémoires, du matériel, des vêtements, des courses, tout est à monter dans des scénarios, parce que la particularité, c'est qu'on ne veut pas exposer sans mettre une histoire devant.
On a vraiment hâte à Beaufort-sur-Doron d'aller voir tout cela, cette belle histoire du ski qui touche l'ensemble hein, des gars de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère, bien évidemment. Merci à vous, Jean-Jacques Bouchage.
Merci à vous.
La passion de la montagne se partage sur France Bleu.
Bientôt la fin de l'émission. Il nous reste quelques actualités à vous donner avec Jean-Michel Asselin. On parlera également de cinéma et de livres. Après les histoires d'A, et les histoires d'A finissent d'après les rites à Mitsuko. Toujours mal. Dans Passion. Et Lerita Mitsuko sur France Bleu arrive à la fin de l'émission. Alors dans l'actualité, on l'a appris il y a quelques temps de cela, hein, on a une nouvelle auteure pour le Mont Blanc, Jean-Michel. Vous voulez revenir dessus?
Oui, vous savez désormais qu'il fait 4807,81 cm.
Oui,
la précision va l'être donnée, ce qui fait qu'il a baissé à peu près de 1 mètre depuis 4 ans. La calotte de glace et la neige fluctuent. Mais il y a quelque chose que l'on devrait peut-être on devrait s'intéresser. C'est qu'il paraît que le sommet du Mont Blanc bouge légèrement. Vous savez, il avance, il se déplace un peu à gauche, un peu à droite.
J'ai peur de ce que vous allez me dire.
Eh ben, certains disent, tiens, si ça se trouve, le sommet du Mont Blanc, maintenant, il est peut-être en Italie. Tout simplement. Bon, moi je dis ça, j'ai rien dit. Au géomètre de nous dire que c'est toujours un sommet franco-italien.
Ouais. Merci pour cette actualité. Dans l'agenda, tiens, du 18 au 24 octobre, que se passe-t-il, Jean-Michel?
Eh bien, du 18 au 24 octobre, c'est le grand bivouac à Albertville. Vous savez, c'est un festival du film d'aventure et du livre. Le thème... Prendre le monde à témoin. Alors c'est un festival qui présente l'avantage d'être en ligne jusqu'au 1er novembre et puis en présentiel à Albertville, comme d'habitude, beaucoup de monde, donc inscrivez-vous.
Terminé avec ce magnifique film sur les écrans depuis pas mal de semaines.
Eh ben oui, j'espère que vous l'avez.
Mais c'est un carton.
Ah, c'est un carton. J'espère que vous avez vu Le Sommet des Dieux. N'hésitez pas non plus à vous pencher sur les mangas. 5 tomes, encore une fois, extraordinaires.
Le Sommet des Dieux qui reviennent quand même sur une
époque sur cette
assez
histoire,
particulière, cette fameuse.
L'histoire
époque.
De Mallory et Irvine. Oui. Sont-ils allés ou non au sommet? Bah, vous le saurez en allant voir Le Sommet des Dieux. C'est très intéressant. Des images fantastiques.
Comme si on y était.
On y est. C'est ça qui est incroyable, une précision et de l'émotion à tout casser.
Et alors, ce qui est incroyable...
Eh oui, ce qui est incroyable, c'est que tous nos auditeurs écouteront bientôt Jean-Charles Ostorero, qui n'est autre que l'un des scénaristes et producteurs du film Le Sommet des Dieux. Il sera notre invité dans Passion Montagne le 24 octobre.
Eh ben, c'est-à-dire dans une semaine,
voilà.
Cher ami Jean-Michel. On l'attend avec impatience, on a plein de questions à lui poser. En tout cas, bon week-end, bon dimanche, bonne semaine de montagne et à dimanche prochain, Jean-Michel.
Bonne montagne à tous.
Retrouvez Passion Montagne sur francebleu.fr.
Et on rejoint, voici tout de suite Grand Corps Malade et Kimber Rose, duo grandiose, nos plus belles années sur France Bleu.
Même si c'est tentant de fuir le présent, s'il te plaît, ouvre les yeux.
Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Finaliste.
histoire, déconfiner l'espoir. Pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années?
Mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.